Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici, Kelly Méran. Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leurs projets de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. J'en profite pour remercier Carline. Elle laisse le commentaire suivant, le podcast qui fait sens. L'énergie et les questions pertinentes de Kelly nous plongent dans notre propre quête de sens et ça fait du bien. Mention spéciale pour l'épisode 4. Carline de Et voilà Podcast, qui a créé un podcast qui donne la parole aux enfants parce que eux aussi ont des choses à dire, fait la mention de l'épisode avec Elsa Cohen, qui souhaite révolutionner l'éducation.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette.
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose? What's your cause? What's your belief?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh.
Réfléchissez.
La vie a-t-elle un sens?
Qui suis-je?
Il est complètement fou ce mec.
À demain.
Aujourd'hui, je reçois Brian Thiely. Il est CEO et fondateur de Linesdude, le premier service en France qui te paye pour attendre dans les files d'attente. Son parcours me laisse bouche bée. Il est passé du statut de jeune voyou à celui d'entrepreneur en passant par celui de SDF. L'école, c'était pas son truc. Il passe son adolescence dans la voyoucratie, entre guillemets, entre la vente de drogue et les cambriolages. En manque de repères familiaux, il exerce là où on lui reconnaît un talent. Ce n'est pas sa plus grande fierté, mais c'était une autre époque, dit-il. On se demande toujours comment la rue devient le quotidien. Pour Brian, tout est arrivé bien vite et on va en discuter avec lui. Sur le site de Linesdude, l'entreprise qu'il a créée, on lit que leur principale mission est de redonner de la valeur au mot « liberté ». Grâce à Linesdude, le temps passé dans les files d'attente ne sera plus du temps perdu, mais sera une ressource économique comme une autre. On fait appel à des « dudes » pour attendre dès 4h du matin devant les préfectures, devant les catacombes ou devant le dernier restaurant Big Mama qui ne prennent pas de réservation. En 2019, il intègre Station F, le plus grand incubateur d'Europe basé à Paris, dans le 13e arrondissement. Il grimpe cette année sur la scène du Maddy Keynote, grande messe de l'innovation et des startups qui réunit près de 10 000 visiteurs, pour témoigner de son aventure entrepreneuriale. Brian est un homme qui déborde d'énergie et aime apprendre chaque jour. Une détermination hors pair se fait sentir entre ses lignes. Il se développe, il se challenge quotidiennement pour faire décoller une aventure bien loin de sa traversée du sud à la marche et de l'alcoolisme. Je vous invite à découvrir le personnage. Brian, bienvenue sur le podcast Insensé. Je suis ravie de te recevoir. Où es-tu en cette période de confinement et comment ça va aujourd'hui?
Merci déjà de m'inviter. Moi, en période de confinement, là, donc, je suis dans mon appartement à Flightmate, qui sont les logements de Station F. Ça va, hein, malgré tout, du confinement. Mais bon, au moins, on a le soleil qui frappe à la fenêtre, qui rentre dans la chambre. Donc ça va.
Très cool. On a la chance tous les deux d'avoir un toit, d'avoir un chez-soi, on est bien au chaud et c'est pas le cas de tout le monde, c'est quelque chose que tu as déjà vécu dans le passé. Est-ce que tu as des recommandations ou des idées comment chacun pourrait contribuer à aider ceux qui n'ont pas de toit pour avoir un peu plus de confort?
En vrai, à l'heure d'aujourd'hui, ça reste quand même ultra compliqué, à part en fait aller rejoindre le max d'associations pour aller aider sur le front, pour aller distribuer des repas, parce que bon, même s'il y a des hôtels de réquisitionnés, il y en a encore beaucoup qui sont dehors, ou carrément aussi aller dans les hôtels justement qui sont réquisitionnés pour aider le personnel à faire tourner la boutique et à s'occuper des personnes. À l'heure d'aujourd'hui, la seule chose, je pense, qu'il y a à faire, c'est vraiment d'aller au front pour aider les associations.
Et comment est-ce qu'on trouve les associations et les hôtels, justement, où on peut agir?
Je sais que j'en vois beaucoup qui communiquent sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, sur les groupes, où ils font vraiment des appels à l'aide, parce que y a énormément de besoins. Après, bah, dans toutes les maisons de quartier, je pense qu'on a tous une maison de quartier chez soi, et voilà, et bah, il y a les associations qui communiquent via cette maison de quartier. Et des fois, on peut trouver des notes dans les bas d'immeubles, justement. Donc voilà, il faut regarder les maisons de quartier, les réseaux sociaux, et tout se passe dessus.
Ok, si ça te va, on partagera 2-3 liens en description de l'épisode pour ceux qui nous écoutent.
Ouais, vas-y, carrément.
Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter un peu ton parcours rapidement ? Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'intro. L'idée, c'est de savoir par quoi t'es passé jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui.
D'accord. Bah, par quoi je suis passé par pas mal de trucs. Comme tu as pu dire, voilà, déjà, l'école, c'était pas pour moi. J'ai arrêté après la troisième. C'était pas un truc qui m'inspirait. Je voyais pas qu'est-ce que j'allais pouvoir foutre en étant assis derrière un bureau pendant 8 heures par jour. Donc après, je me suis vite retrouvé dehors, donc avec mes potes. Et donc forcément, quand tu te retrouves dehors, bah, tu fais des larcins sur larcins. Donc je suis vite tombé dans, comme j'ai dit, dans la voyoucratie assez jeune. Et après, bah, retournement de situation, je me suis retrouvé à la rue. À force de trop y traîner, tu vois. À force, voilà, j'y ai fini, mais voilà, pour de bon, sans abri. Et c'est vraiment cette période-là qui m'a marqué. Et je me suis dit qu'il fallait que je me bouge le cul, en fait, que je me mette un gros coup de pied au cul et que je fasse quelque chose de ma vie, que je serve à quelque chose dans ce monde. Et c'est de là après où bah, j'ai vraiment commencé à travailler sérieusement, avoir un vrai travail, à signer mes premiers CDI, avant de me dire qu'il fallait que je sois mon propre patron, parce que bon, toucher le SMIC, j'en avais marre. Et après, de là est née donc, l'aventure entrepreneuriale que je vis aujourd'hui.
Très cool. Je vais revenir sur 2-3 points. Tu as mentionné ta période voyou.
Ouais.
C'est quoi ton plus grand apprentissage que tu as eu pendant cette période-là ?
Mon plus grand apprentissage ? Le respect, la valeur des proches. Et c'est tout. Hein. C'est un des plus grands apprentissages que tu peux avoir. C'est la valeur des choses, si la valeur de l'argent, le respect. Et c'est tout, ça forge surtout une mentalité, quoi. C'est surtout ça.
Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette mentalité ?
Qu'est-ce qu'il y a dans cette mentalité ? Je sais pas, une bonne mentalité, c'est... Tu fais pas confiance à n'importe qui, tu restes droit, tu respectes ta parole, et tu respectes les gens surtout. Et ça, je pense que c'est quelque chose de primordial dans ce monde, c'est le respect. Et surtout le respect de sa parole, c'est quelque chose de très très important, et notamment dans le business.
Ouais, ouais, je confirme. T'aurais pensé un jour te retrouver à la rue ?
Pas du tout. pas du tout. C'était impensable. Et je pense que jamais personne un jour se dit bah, je pense que je vais y finir. Non, ça c'est... Je pense que personne n'est prêt pour ça. Moi, j'étais pas prêt du tout. Comment je n'ai pas compris ta question, excuse-moi.
Ce que je suis curieuse de découvrir, c'est tu t'y attendais pas et tu parlais d'un retournement de situation. Qu'est-ce qui a été ce retournement de situation qui a fait que...
Bon, en fait, c'est un tout. Il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, avant que ça arrive, bah, voilà, je menais une vie normale avec ma femme, mes amis. Voilà, je menais une vie normale. Et donc, dans la sphère privée, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Notamment, j'ai eu des amis très chers qui sont décédés. Donc, déjà, ça m'a mis un gros coup au moral. Et juste après, pas longtemps après, il y a eu des soucis familiaux assez graves et qui ont fait que ça a mené au divorce de mes parents et qui a amené en fait par la suite, qui a amené ma mère à devoir nous emmener en fait avec elle. Donc elle est partie de la région où on habitait jusqu'à dans le sud. Donc du jour au lendemain en fait, donc moi j'étais chez mes amis, chez mon meilleur ami, et du jour au lendemain j'ai dû quitter la région. Donc voilà, sur un coup téléphone de la maman, et donc je suis passé d'une vie où j'étais normal, j'avais ma femme, mes amis, on sortait, on allait en boîte, on s'amusait, au lendemain où je dormais sur un banc dehors. Voilà, suite à plusieurs soucis en fait qui sont survenus dans ma vie et qui ont mené à ça.
Une escalade d'événements qui cumulait.
Exactement, ouais. Tout est venu au même moment et voilà.
Et si j'essaye de comprendre, dans la majorité des cas, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un cumul d'événements? Est-ce que ces différents parcours, peut-être de personnes que tu as rencontrées à la rue, seraient similaires?
Bah c'est toujours des enchaînements d'événements en fait qui fait que des gens sont à la rue. Un divorce, une perte d'emploi, des problèmes familiaux, c'est tout le temps les mêmes trucs hein, qui reviennent. Hein. C'est toujours, la plupart du temps, c'est toujours ça. C'est toujours un enchaînement d'événements qui fait bah, que tu te retrouves là. Et c'est très très souvent lié à des problèmes familiaux.
Ouais, et des chocs émotionnels aussi, j'ai l'impression.
Ouais, bah ça va de pair. Hein. Ça va être soit un choc émotionnel qui va créer la perte d'un emploi ou un divorce. Et ça aussi peut entraîner un choc émotionnel. De toute façon, se retrouver à la rue, c'est un gros choc émotionnel. Donc ouais, enfin, tout est lié.
Si tu devais revenir à cette période-là, est-ce qu'il y a des moments où tu penses qu'il y avait des alertes rouges pour toi? Tu aurais pu détourner ou des moments où tu aurais pu avoir une prise de conscience. Quand tu regardes aujourd'hui, bien sûr, c'est toujours plus facile de regarder après ce qui s'est passé avant pour comprendre. Est-ce qu'il y a un moment où tu aurais pu changer la trajectoire?
À l'époque, non, j'étais trop dans mon monde. Ouais, j'étais dans la drogue aussi, l'alcool, l'amusement, les amis, les conneries. J'étais dans mon monde et je faisais pas assez attention au bout d'un moment en fait à ce qui se passait chez moi parce que bon je savais ce qui se passait mais j'avais déconnecté parce que bon j'en avais marre tu vois c'est donc non j'étais trop dans mon monde un peu pour faire attention à tout ça je faisais attention plutôt à ma petite personne donc non je vois pas qu'est-ce que j'aurais pu faire j'aurais pas eu le déclic enfin j'aurais pas pu changer les choses améliorer les choses dans l'état que j'étais à l'époque.
Et tu parles des addictions, la drogue et tout. Comment est-ce que tu t'es débarrassé de ça aujourd'hui?
Eh ben ça, c'est... C'est une bonne question. Enfin, j'ai de la chance que j'ai l'impression que ça a été assez facile. En fait, j'ai tellement eu de volonté de vouloir changer en fait, et d'avoir vu que bah, ma vie était en train de partir en couille, que j'étais en train de tout perdre autour de moi. Et que ça en était une bonne cause, en fait, l'alcool et la drogue, ça a été une très lourde cause pour laquelle j'ai un peu perdu tout ce que j'ai perdu. Donc ça y a fait beaucoup, surtout la volonté de devenir un homme. Ben voilà, un homme, si tu veux être droit, et ben, il va falloir qu'il ait sa tête droite. Donc il faut pas avoir fumé, faut pas avoir de l'alcool dans le sang. Donc ça m'a aidé en fait à me dire j'ai pas le choix, il faut que j'arrête. Donc que ça soit l'alcool ou la drogue, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à tout arrêter du jour au lendemain.
Wow.
Parce que voilà, j'ai eu un déclic en fait dans ma tête assez ouf en fait, j'arriverai même pas comment expliquer en fait ce qui s'est passé en moi, mais ça a été puissant, très très puissant et du jour au lendemain tout a changé dans ma vie. Et surtout que le mieux, c'est que j'ai eu aucun manque.
T'as pas eu besoin de forcer contre,
pas du tout.
Contre ton addiction, quoi.
Pas du tout.
Et cette volonté, c'est quoi? C'était un déclic qui tombait du ciel, quoi. Tu t'es réveillé un matin et t'avais cette force qui partait du ventre et qui t'a dit, ok, je me relève et je marche.
Bah, pour arrêter ces addictions, bah, c'est surtout de se dire, bah, quand je regardais ce qu'il y avait autour de moi, en fait, quand je regardais que j'avais de moins en moins d'amis. Qu'il m'en restait un ou deux de vrais, que le reste n'était plus là. Quand je regardais ma mère et mes sœurs en train de dormir dehors, quand je regardais après qu'on habitait en caravane, quand je regardais tout ce merdier en fait, je me suis dit bah non, bah voilà, il faut que tu arrêtes, que tu te mettes droit. Et voilà.
C'est quoi pour toi être droit?
Être droit, c'est être un homme. Et être un homme, c'est quoi? C'est. Assumer ses responsabilités, donc faire en sorte que sa famille elle mange bien, elle dort bien, qu'elle soit en sécurité, et c'est tout, ça s'arrête là. Et pour ça, pour assurer tout ça, bah, il faut avoir les idées en ordre. Pour avoir les idées en ordre, c'est pas de drogue, pas d'alcool.
Et aujourd'hui, j'ai lu que tu avais traversé le sud en marchant.
Ouais.
Pourquoi ?
Pourquoi ça, ça a été mon psy, en fait, la marche. Donc, après que je suis allé dans le sud, donc une fois que j'ai essayé donc d'arrêter drogue alcool, je me suis barré de chez moi, en fait, parce que j'arrivais pas à... Je me suis enlevé toute ma famille, je me suis déconnecté, j'étais pas très... Voilà, fallait que je m'écarte, que je fasse le point sur moi-même, que je me soigne. Parce que j'étais quelqu'un de très, 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 très nerveux. Et donc, du coup, j'ai décidé bah, de partir. Et donc là, bah, moi, ça a été la marche. Parce que déjà, de un, je ne voulais pas être à un endroit fixe. Et voilà, qu'on sache, bah, lui, c'est le clochard du coin, machin, nanana. Voilà, c'était mort. Donc, il fallait que je marche. Et en fait, en marchant, ce que j'aimais bien, c'est que je faisais que de penser. Et donc, du coup, bah, ce que j'ai fait... Enfin, automatiquement, je ne me suis pas dit « je vais faire ça hein, ». Mais ce que j'ai fait... Je me suis retracé toute ma vie. En fait, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui allait pas en fait et pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation alors que bah, pour moi, tout roulait quoi, à l'époque. Tu vois, je faisais de l'argent, j'avais des amis, j'avais une femme, j'allais au restaurant, boîte de nuit, tout allait bien. Et donc, je me suis retracé toute ma vie, je me suis remémoré plein de choses en disant bah, voilà, bah, pourquoi là ça s'est passé comme ça, parce que si, parce que ça, ou pourquoi telle personne m'a dit ça à tel moment. Et j'essaie d'analyser en fait tous les comportements et toutes ces réactions qui m'ont amené à telle situation. Et bah, du coup, voilà, j'ai traversé en fait le sud pour pouvoir m'occuper le cerveau en fait et faire ces petites séances de psy pour comprendre pourquoi je m'en étais arrivé là.
Donc, tu t'es auto. Auto-soigner avec cette marche, en fait, avec ce rituel qui était presque automatique, quoi. Il fallait que t'avances.
Ouais, carrément, c'était ça. C'était automatique. Mmh. Hein, je me suis pas dit, je vais faire ça pour ça. Hein. C'était automatique.
Ouais. C'était instinctif, hyper instinctif.
Exactement.
T'as rencontré beaucoup de gens à cette période-là, quand t'étais pendant cette marche dans la rue?
J'en ai rencontré. Pas non plus énormément, parce que... Je suis un loup solitaire et j'aime pas me mélanger à des gens et surtout encore moins voilà bah là je voulais pas non plus être assimilé sans abri donc je voulais pas déjà qu'on le sache que j'en étais un, je voulais pas rester au même endroit mais ouais au bout d'un moment j'ai fini par en côtoyer, c'était sur Toulon et ouais tu prends des grandes tartes hein. Tu prends des grandes tartes quand tu rencontres ces gens là.
Pourquoi?
Quand leur parcours et surtout leur philosophie de la vie, j'ai rencontré, voilà, ils étaient heureux, enfin ils ont galéré, tu vois, ils sont là, mais ils arrivent quand même à prendre la vie du bon côté. J'en avais, ça faisait 4 ans, l'autre 7 ans qu'ils étaient à la rue, et ils trouvaient quand même le moyen de te remonter le moral, de te faire sourire, de te faire rigoler. Et ça c'est formidable en fait, tu te vois les mecs ça fait plusieurs années qu'ils sont dans la rue, en plus quand t'écoutes leur histoire ils ont galéré de ouf, ils ont tout dans leur vie pour y arriver, mais ils sont là, ils sont dans la rue et puis gros c'est eux, ils te remontent le moral, ils sont là, ils te font rire, c'est incroyable, t'as des pères de famille qui sont encore là et qui assument leurs enfants alors qu'ils sont dans la rue.
Wow.
c'est ouf, des darons qui donnent leur RSA entier à leurs enfants pour les aider et lui il dort dehors. Et les enfants sont même pas au courant que leur daron il dort dehors. Enfin, t'entends des histoires incroyables et tu te dis, mais toi, la vie de ma mère, qu'est-ce que tu te plains, frérot? Bouge-toi le cul et fais les choses pour t'en sortir. Tu vois? C'est de la rigolade comparé à ces messieurs.
Ouais. C'est beau ce que tu partages sur cette humanité parce que on parle souvent de. À quel point il y a peu d'entraide et là je trouve que tu mets en lumière justement de belles histoires.
Ah, puis à la rue il y en a de l'entraide.
T'es resté en contact avec ces personnes que t'as rencontrées dans la rue?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Ça c'est vrai que c'est un truc, je suis un peu déçu parce que c'est vraiment des personnes en or. J'étais pas dans le meilleur mood pour réfléchir correctement et me dire voilà ça serait bien que de contact ou quoi, donc non. Mais peut-être qu'un jour on se reverra. Ça, en tout cas, les visages, ils sont dans ma tête.
Ouais, tu les reconnaîtrais.
Ouais, bah bien sûr, ça, ouais, ça marque.
le... Ok, j'ai deux questions en parallèle, tu choisis si tu veux répondre aux deux. Le plus dur et le plus grand apprentissage, une fois de plus, dans la rue.
Le plus dur, c'est... C'est dormir. C'est la peur, le froid. Bon, déjà, c'est trouver un truc à l'abri où c'est pas trop humide, où il n'y a pas trop de vent. Mais c'est surtout être en sécurité, en fait. T'as toujours peur de te faire racketter, de te faire dépouiller. Tu dors... en fait, c'est limite, tu dors pas, en fait. Tu vois, tu dors un œil ouvert. C'est... Ça, moi, j'ai galéré. Tu vois, j'ai galéré de ouf à dormir sereinement, tu vois. Pas te... t'enlever en sursaut, parce qu'il y en a eu des galères. Et des... C'est... Des fois, quand t'es tout seul à la rue, c'est chaud, c'est dangereux. Tu tombes sur des spécimens, ils te font un peu peur. Donc ça, ouais, pour moi, ça a été vraiment le plus dur, de vraiment me sentir en sécurité. Et l'apprentissage, en fait, quand, voilà, il est humain, en fait, parce que quand j'ai rencontré, en fait, ces gens-là qui étaient plusieurs années là, en fait, je me dis, mais j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois, et que je suis très très bien, et que même si là j'étais à la rue, je devrais sourire et être content, essayer d'en tirer le meilleur profit et avancer. Je pense que le meilleur apprentissage que tu peux avoir de la rue, ouais, c'est sur le côté humaniste, plus qu'autre chose. Après, trouver de la nourriture, pourquoi te doucher, ça c'est facile, c'est pas le plus compliqué qu'il y a à la rue. C'est de trouver le moral. Et ça, justement, c'est les gens qui sont à la rue qui te le donnent, et la grande leçon, elle est plutôt là. Ouais.
C'est quelque chose que tu gardes aujourd'hui ?
Ah, de ouf, de ouf.
Dans ton quotidien ?
De ouf.
Du coup, aujourd'hui, t'habites donc plus en Hacker's House, ça c'était avant.
Ouais.
T'es dans le, comment dire, les locaux de Station F, c'est ça ?
Ouais, les logements de Station F. Donc non, t'as le site, les bureaux qui sont dans Paris 13. Et donc les logements qui sont quelques minutes après, qui sont à Ivry-sur-Seine.
Ok.
Au bord du 13e. Donc on a le logement là. Donc, c'est trois grandes tours où toutes les personnes qui travaillent à la Station F, les entrepreneurs, les employés, les stagiaires, qui habitent ici dans des appartements en colocation de 6 personnes.
Ok, donc il y a aussi cette notion de grande colocation et de communauté, de partage là-bas.
Exactement, ouais, carrément. Et c'est vraiment cool, on retrouve vraiment on retrouve le même esprit Station F, l'entraide, donc c'est vraiment bien.
Et ça t'apporte quoi, ça ?
Ben, ça m'apporte quoi ? Déjà, ça m'apporte un toit. Parce que c'est déjà bien, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand t'es entrepreneur et que tu fais pas forcément, que t'as pas forcément de fiche de paye, bah en fait, pour trouver un logement à Paris, accroche-toi. Si tu ne viens pas d'une grande famille et que tu n'as pas de garant et qu'ils n'ont pas 10 000 euros par mois dans leur compte, bah, pour trouver un logement, tu peux t'accrocher. Donc, ça m'offre un logement, parce que s'il n'y aurait pas ça, bah, voilà, je pense que je serais encore à la rue. Parce qu'on ne te demande pas de fiche de paye, de machin, de si. Tu payes juste ta caution et ton loyer qui, en plus, est vraiment pas cher. Donc c'est vraiment un cadeau, et en plus de ça, bah, ça t'offre aussi, bah, t'as toute la communauté Station F, quoi. Donc bah, pour travailler le soir, c'est bien, t'as un problème sur tel ou tel truc, bah, tu peux aller voir telle personne qui est dans l'appartement à côté. Alors là, c'est... Il n'y a pas mieux, quoi, pour évoluer, tu vois. On est vraiment dans un bon écosystème où il y a tout concentré aux mêmes endroits. Donc il n'y a pas d'excuses.
Trop bien. Et du coup, tu as rejoint Station F, je ne me rappelle plus de la date.
En 2019, ouais, je crois. 2019.
Ouais. Et je crois qu'initialement, ce n'était pas vraiment ton premier choix. C'est ce que tu disais
dans
une interview sur MyBusiness.
Ouais,
c'était
pas du tout
dans
mes choix, carrément.
Pourquoi ? Raconte.
J'avais une image un peu... Bon, déjà, je ne connaissais pas Station F, déjà. Je ne connaissais pas du tout. Bon, c'est à nouveau, hein. Je crois que c'était 2017 ou 2018. Moi, de base, je ne suis pas dans le monde des startups. Déjà, j'ai appris le mot startup il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je montais une entreprise, voilà, je connaissais que ce mot-là. Bon, même si c'est pareil, enfin bon, bref. Et dès qu'on m'a parlé Station F, moi, j'ai vu quoi ? J'ai vu une concentration de bobos parisiens qui venaient là pour être le prochain Mark Zuckerberg. Et moi, je m'étais dit, c'est mort, on ne va pas me mélanger à ces gens-là qui sortent de grandes écoles et qui se prennent pour je sais pas qui, tu vois. Voilà, moi, je vais faire mon truc de mon côté. À l'époque, j'étais à la carrosse, donc pour moi, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais un logement, un bureau, des personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat autour de moi pour évoluer. Donc je me suis dit, je vois pas pourquoi j'irais m'enterrer dans un milieu où je vais m'embrouiller avec les gens à longueur de journée. Et bon, j'ai eu tort, hein, parce que bon, on en parlait. J'avais un coloc à moi qui était donc au Fighters Programme à Station F.
Ça consiste en quoi, ça?
Le Fighters Programme, c'est un programme d'accompagnement sur un an qui est gratuit, qui est dédié aux personnes qui sortent de milieux sociaux différents, un peu plus compliqués que la moyenne, donc qui n'ont pas fait de grandes écoles ou qui sont issus de l'immigration. Okay. Donc ce programme est ouvert à eux gratuitement sur un an. Donc lui était dans ce programme-là, il m'en a parlé, il m'a dit que bah, j'avais toutes mes chances de rentrer à Station F, qu'il y avait dans ce programme-là que des gens comme moi. Qu'après, bon, bah, certes, les autres, c'était pas des gens comme nous, voilà, ils sortaient de grandes écoles, mais que, enfin, fallait pas avoir une image biaisée d'eux, quoi, qu'ils étaient, enfin, très bien, ils se prennent pas pour je sais pas qui, et c'est vraiment un écosystème parfait, en fait, pour évoluer et pour planter un business, surtout qu'il y a la couverture médiatique derrière. Donc, ils ont fini par me convaincre, et bah, du coup, j'ai fait mon concours d'entrée pour rentrer dans le Fighters Programme. Et bah, j'ai été accepté, j'ai été pris. Et puis là, bah, à ma grande surprise, bah, je suis tombé sur... Ça a été la chance de ma vie. Station F, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et je remercie mon pote Kevin Besson, le fondateur de Leadbiz, qui m'a cassé la tête pour que je rentre dans ce programme. Parce que ça a été le meilleur choix de ma vie.
Trop bien. Aujourd'hui, du coup... Par curiosité, ça crée du lien avec ceux qui sortent de grandes écoles aussi ou pas?
Ouais, bah carrément, carrément. C'est devenu mes potos.
Finalement.
Ah ouais.
On est tous humains, non?
Bah c'est clair, on est tous pareils. Et puis surtout, j'ai besoin de ces gens-là. Moi, mes futurs employés, ils vont sortir des grandes écoles. Faut pas que je m'entoure de gens comme moi. Si je m'entoure de gens comme moi dans mon entreprise, on va galérer, tu vois. Parce qu'on va devoir tout apprendre sur le tas, ça va être faisable. On va prendre du temps, tu vois. Parce que c'est pas notre monde de base. Donc, les gens de grandes écoles, heureusement qu'ils sont là, tu vois. C'est mes poteaux.
Trop bien. Et je vais arriver sur LineZoot. Je sais que l'entrepreneuriat... je crois que tu avais créé une autre boîte avant LineZoot, je me trompe.
Ouais, carrément.
Vas-y, raconte, c'était quoi?
J'avais créé... l'histoire... Déjà, avant LineZoot, ça s'appelait Chronos. Donc en fait, je testais avec une boîte qui s'appelait Chronos, donc c'était le même truc que LineZoot. Et en fait, j'ai fait un bad buzz en 2017 où des gens portaient plainte contre moi parce qu'en fait, j'opérais, donc je proposais mon service dans les préfectures parce que bah, je voyais qu'il y avait de la file d'attente de dingue. Donc je proposais mon service pas cher, 10 € de l'heure. Et en fait, je me suis fait assassiner par les gens parce qu'en fait, il y avait une mafia à l'époque qui opérait dans ces files d'attente-là et qui prenait toutes les places de devant et qui revendait les places derrière le lendemain matin entre 400 et 700 euros.
Ah, en non-officiel, en fait.
Ouais, voilà. Et okay. Sauf qu'ils ne laissaient pas le choix aux gens de l'acheter parce qu'ils prenaient toutes les places de devant. Et donc, c'est des places limitées, c'est des tickets. Donc, si tu n'as pas ton ticket, bah, tu ne peux pas faire tes papiers. Il y en a, ils sont obligés de faire le renouvellement de titre de séjour. Et s'ils ne le font pas, ils sont en inégalité sur le territoire. Donc, eux, ils targetaient ces gens-là pour qu'ils leur lâchent 400-700 euros, pour qu'ils aient la place. Donc c'était une grosse arnaque quoi, qui se mettait, et moi quand je suis arrivé, je ne connaissais pas ce marché-là, et on m'a associé en fait à cette mafia, et donc ils ont tous cru que ah, bah, le petit jeune, bah, en fait, c'est la mafia qui opère normal maintenant, dans les règles. Donc je me suis fait assassiner, ce que je comprends, tu vois, mais au début je ne comprenais pas, parce que je ne savais pas qu'il y avait ça. Donc le temps que je comprenne, ça a été un peu long. Donc j'ai décidé d'arrêter, en fait, j'avais arrêté donc, Chronos à l'époque, LineZoot. J'ai décidé d'arrêter parce que bon, bah, j'ai eu un peu peur, tu vois, t'as des menaces et tout. Ouais, tu te dis, ouais, c'est chaud, j'ai fait une connerie. Et donc, ensuite, bah, pour prendre un peu d'expérience, faire aussi de l'argent, parce que bah, fallait que je fasse de l'argent, je décide de monter une autre boîte donc, qui s'appelle Dr. Bread. Et donc là, c'était quoi? Donc moi, j'en ai profité, j'étais dans une colocation, on était beaucoup. Et là, Kairos avait plusieurs colocations dans l'île de France. Et je me suis dit, bah, je vais faire des box où en fait, dedans, je vais mettre tous les ingrédients pour ta semaine et des livrets recettes. Et tout ça bio et prêt en 30 minutes chrono. Et en fait, moi, je livrais donc ma colocation. Chaque semaine, j'allais faire les courses. Je leur faisais un menu. Et je leur ramenais donc les grandes box où dedans, bah, tu avais tous tes ingrédients pour faire tes repas de la semaine avec les recettes. Et chaque soir, c'était deux personnes qui cuisinaient pour tout le reste de la colocation la recette que j'avais prédéterminée pour la semaine. Et ça marchait très 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 bien.
Ok. Et elle est devenue quoi cette boîte?
Bah, je l'ai arrêtée. Enfin, au début, je l'ai essayé de la donner en fait à d'autres potes. Donc elle est passée par les mains de deux personnes qui ont lâché l'affaire en fait, qui n'ont pas vraiment réussi. Bon, s'il y avait le petit secret de fabrication à l'intérieur.
Okay. Mais c'était quoi le secret de fabrication?
Je vais te le dire, on va rigoler. Hein, mais
allez.
En fait, il y avait une grande partie des courses que je volais, donc du coup.
donc forcément, c'était rentable.
Donc du coup, voilà, c'était très rentable. Et quand je l'ai donné, vous ne comprenez pas comment j'arrivais à sortir du chiffre.
D'accord.
Donc voilà, donc, ça s'est vite, vite arrêté. Et mais voilà, moi, ça m'a permis de prendre un peu d'expérience entrepreneuriale, tu vois, surtout de la rigueur, de savoir comment faire, de plaire aussi aux colocs, parce que voilà, ils n'y allaient pas de main morte. Hein, quand ça n'allait pas, ça n'allait pas, parce que bon, ils payaient, hein, donc ce qui est normal. Et surtout de faire de l'argent. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses.
Ok.
Et après, voilà, j'ai remonté l'Insdult quand j'ai bien pris conscience. Là, on a retravaillé à fond, on a fait couler Chronos et on a créé l'Insdult.
Ok. Aujourd'hui, l'Insdult, vous êtes plusieurs? Parce que tu dis on?
Alors, non, je dis on parce que j'aime pas dire moi je.
Ok.
Officiellement, je suis tout seul, mais officieusement, il y a quand même un peu de gens derrière qui m'aident. Et voilà, bientôt, on sera vraiment plus tout seul.
Et il y a tous les dudes aussi.
Et il y a tous les dudes, exactement. Donc ça, il y en a à peu près 500. Donc
wow,
ouais, je suis loin d'être tout seul.
Génial. Est-ce que parmi ces 500, il y a des sans-abri?
Alors non, il y en a pas encore.
Est-ce que c'est possible pour un sans-abri de rejoindre la communauté?
Alors ça, non, je pense. Ce qui m'embête, c'est que tu vois, j'avais une coloc là en mars, sauf que il y a le confinement qui est tombé et que j'ai pas pu participer à cette coloc. Justement, cette coloc, c'était comment avoir des sans-abri dans sa boîte, et du coup, moi, c'était comment je pourrais les intégrer donc dans le programme. Parce que bon, faut savoir que c'est compliqué. Des fois, il n'y a pas forcément de compte en banque ou pas forcément de carte d'identité. Donc, il faut, voilà, il faut aussi que lui soit en règle. Et que nous aussi, de notre côté, on soit en règle. Hein. On ne peut pas faire ça au black. J'espère, je pense. Normalement, ça sera possible. Faut que je regarde. Il y a un truc de UTI où je pourrais peut-être arriver à faire en sorte de les accompagner pour avoir les papiers qu'il faut et les mettre dans la mesure. Normalement, ça va être bon. Mais voilà, c'est vrai que là, du coup, j'ai pas les réponses. Je devais les avoir, mais voilà, j'ai pas les réponses concrètes. Mais logiquement, tout est possible. Tout est possible. En tout cas, je ferai tout mon possible pour qu'il y en a, parce que c'est l'objectif, en fait, qu'il y ait des sans-abri dans la boîte, qu'ils fassent l'insult, parce que ça m'a aidé de ouf, donc il faut que ça puisse aider d'autres personnes.
Mmh. Ce qui est intéressant dans la stratégie que tu as adoptée, c'est que, en fait, il faut que tu sécurises ton modèle économique, et ensuite, tu vas pouvoir déployer plus d'efforts sur le fait de les accueillir dedans, quoi.
Bah, c'est clair. Mmh. Je ne veux pas les accueillir s'il n'y a rien de stable et qu'ils ne font pas d'argent. Ça serait un peu con. Ça ferait un peu beaucoup d'efforts pour rien, quoi. Il lâcherait l'affaire.
Ok. Quelle est l'utilisation la plus improbable de l'Insdude? Dans le genre, faire la queue pour un truc perché?
Bah, le truc le plus improbable. Bon, enfin, après, pas tant improbable que ça, mais je m'y attendais pas du tout parce que je ne connaissais pas. Bah, c'est faire la queue en fait pour des chaussures ou des vêtements. Et bon, après dans le milieu, parce que c'est du streetwear, dans le milieu streetwear de luxe, bah ça c'est connu.
Ok.
Mais c'est vrai, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, c'était vraiment, je m'attendais pas à faire la queue pour, excuse-moi, pour avoir la dernière Nike. Tu vois, ça, je pensais pas que ça existait.
Ah ouais, parce que les gens font la queue. Pardon, moi non plus, je suis pas au courant. Les gens font la queue pour avoir la dernière basket, la dernière sneakers.
Ouais, exactement.
Ok.
Ok. Mais des fois, c'est des coups de 4-5 heures de queue, voire des fois, il y en a qui dorment dehors avec l'attente, quoi.
Waouh!
Donc, c'est un gros délire. C'est un gros, gros délire. Je connaissais pas du tout. Et...
Je savais que pour les iPhone, pour les nouvelles sorties Apple, ça se faisait. Je sais pas si ça se fait toujours, mais ouais. En tout cas, ouais.
De moins en moins, mais ça revient, parce que bon, c'est le marketing des marques de luxe, hein, ils adorent ça. Les marques de luxe, dès qu'il y a de la file d'attente, ils se gargarisent. C'est leur business.
Il y a un terme qui m'a attrapé l'œil sur ton site web, que l'objectif est de redonner de la valeur au mot liberté.
Ouais.
Ça veut dire quoi pour toi ?
Bah, c'est pour moi, en fait, voilà, le temps, c'est quand tu possèdes le temps, pour moi, tu es libre, en fait, parce que bah voilà, bah, tu as le temps de faire ça, tu as le temps de faire ci, c'est toi qui décides, en fait. Tu vois, on te dit pas, bah, à 8h, faut que tu sois là, à midi, voilà, tu vois. Donc, du moment que tu arrives à gérer ton temps, pour moi, tu as une certaine liberté. Et on le retrouve des deux côtés, donc du côté Jude, donc ceux qui font la file d'attente, et du côté client. Côté client, parce que bah, lui, il peut décider, quand il veut, de ne pas attendre. Par exemple, de ne pas attendre un concert, mais il se donne la liberté de participer à ce concert-là. Mais il n'a pas participé à l'attente. Donc ça, c'est une liberté, tu vois, c'est quand même une assez bonne liberté que peu de personnes, lors d'aujourd'hui, sans mon service, peut s'offrir ce délire-là, à moins que tu sois une star. Et côté Jude, la liberté de choisir comment tu veux travailler, quand tu veux travailler. T'as pas d'horaire fixe, c'est toi qui décide de te connecter à notre plateforme, de regarder l'émission qu'il y a, de vouloir y participer si tu veux participer, si tout te plaît. Donc il y a une certaine liberté dans le travail et surtout qu'on paye très très bien. Donc j'espère dans un futur proche, tu pourras gagner ton pain avec nous sans avoir de contraintes horaires, journalières. Ça serait énorme.
Ok. Et pour toi aussi, peut-être, cette valeur de liberté avec ce projet, non ?
Bah moi, la liberté, forcément, j'espère que ça va me l'offrir parce que moi, l'objectif aussi, c'est que je sois aussi en retraite le plus vite possible. Donc forcément, gagner beaucoup d'argent. Et du moment que je vais avoir ça, je vais avoir une certaine liberté parce que voilà, je vais plus être obligé de travailler. Je vais pouvoir faire voilà, ce que je veux et surtout me consacrer à des projets qui me tiennent à cœur. Et donc du moment où je vais voilà après là j'allais dire je suis quand même à une certaine liberté parce que je travaille, il y a un projet qui me tient à cœur, donc j'ai pas l'impression de travailler, je suis quand même hyper libre dans tout ce que je fais. Moi vraiment ce que ça va apporter, c'est vraiment une liberté financière, parce que là pour l'instant la seule chose que je peux pas faire, c'est aller voir ma famille ou partir en vacances. Donc là c'est la seule contrainte que j'ai, mais ouais je suis ultra libre, hein. Ça fait 3 ans que je me régale dans ce que je fais. Et ouais, être entrepreneur, t'as une liberté de dingue malgré tout.
Tu disais que tu voulais partir en retraite le plus rapidement possible, pourquoi ?
Ouais. Bah pourquoi ? Bah déjà, ça a toujours été l'objectif depuis que je suis tout petit. Que je l'ai toujours dit, je veux être millionnaire avant 30 ans et je le serai. Donc ça, c'est l'objectif. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir m'occuper de ma famille. Je veux pas attendre d'avoir 60 ans pour éduquer mes enfants, pour profiter du temps avec ma femme. Je veux vraiment prendre ce temps quand on a nos meilleures années devant nous. Faire le tour du monde avec ma femme, faire voyager mes enfants, les éduquer correctement, les amener dans des bonnes écoles. Et ça, voilà, pour moi, plus tôt je peux avoir cette opportunité, mieux c'est. Je veux vraiment profiter de ça et pas le regretter.
Et tu pourrais pas combiner les deux ?
Combiner les deux, c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire garder la gestion de Lines Dude et faire des voyages au bout du monde avec ta femme et tes enfants.
Je sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que non, c'est incompatible parce que ça me prend tout mon temps. J'ai le temps de rien faire. Pour plus tard, pour être sincère avec toi, pour plus tard, si je me dis que voilà, là, Lines Dude décolle. Moi, ça n'allait pas être mon objectif de le garder. Pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, c'est que pour moi, il y a deux choses qui sont différentes. Entrepreneur et chef d'entreprise. Pour moi, c'est deux métiers différents. Un entrepreneur, ça va être limite inné. Ça va être une passion. Ça va être une passion. Un chef d'entreprise, c'est un métier pour moi. Et moi, je ne suis pas fait pour être chef d'entreprise. Je suis fait pour être entrepreneur, pour monter des projets, mettre toute ma hargne à l'intérieur, faire en sorte que ça devienne un vrai truc, et ensuite passer le bébé à un vrai chef d'entreprise. Pour moi, pour l'instant, j'ai ni les compétences ni les épaules pour être un chef d'entreprise, diriger des centaines de personnes. Et si je veux que mon bébé il dure le plus longtemps possible, va falloir que je le donne à des gens plus intelligents que moi. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle voilà, je pense que je cumulerai pas les deux parce que je n'ai pas la casquette de chef d'entreprise, mais j'ai celle d'entrepreneur. Et aussi, deuxième raison, moi, ce que j'aspire, comme je dis, c'est m'occuper de ma famille et surtout après partir sur des projets bénévoles, des projets associatifs. Donc j'aurais mieux à faire côté bénévolat que côté dans mon entreprise. C'est bon, j'aurais gagné mon pain, j'aurais fait ce qu'il faut pour d'autres gens. Maintenant, voilà, on va donner un peu plus côté associatif que voilà.
Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Tu parles donc du chef d'entreprise et du fait que ça ne correspond pas à toi. Parce que tu ne veux pas ou parce que tu penses qu'il te manque quelque chose pour être un bon chef d'entreprise?
Bah déjà, bon, bah c'est clair, il me manque quelque chose pour être un bon chef d'entreprise. Pour moi, voilà, ça s'apprend. Et j'ai pas encore appris à être un chef d'entreprise, ça va s'apprendre sur le tas. Après, est-ce que je serai un bon chef d'entreprise? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui te manque?
Ce qui me manque, je ne sais pas, certainement beaucoup de choses. Déjà, savoir manager, ça c'est vrai que bon, c'est un truc, pour l'instant je ne suis pas non plus le meilleur en management d'équipe. Après, je ne sais pas, il peut me manquer beaucoup de choses. J'ai jamais été chef d'entreprise encore, donc je ne sais pas vraiment toutes les qualités qu'il faut. J'ai encore jamais géré de grandes équipes, de grosses structures. Mais ce qui est clair, c'est que je n'ai pas encore acquis ces compétences. Ça, c'est clair et net. Et est-ce que je veux? Non, encore une fois, je ne sais pas. Je pense que non, ce n'est pas ce que je veux. Après, je ne peux pas vraiment réellement le savoir puisque bah, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est.
Il y a presque un trou noir quand tu parles du chef d'entreprise, un truc dans lequel, un trou noir dans lequel t'as pas envie de mettre ta main, quoi.
Bah ouais, parce qu'en fait, pour moi, après, je sais pas si je me fais des fausses idées, mais en fait, t'es esclave de ta boîte. Tu vois, t'es salarié, t'as une clause qui t'interdit de partir de ta boîte sous X années. Donc en fait, tu deviens employé et t'es obligé de faire certaines choses. Et moi, c'est quelque chose. Non, en fait, moi, si je fais ça, c'est pour être libre. Tu vois, donc on va pas me dire bah pendant 4-5 ans t'es obligé de rester dans ta boîte, à pas vendre tes actions, à être payé tant et tu dois faire tant et attention tu dois faire ça sinon on te tape sur les doigts. Non, moi je vais pas être à la merci des financeurs qui va falloir que je fasse ça pendant X années. Moi je vais essayer de faire le plus beau bébé possible, de tailler le diamant le mieux possible. Et voilà, après c'est mettre ça dans les mains de quelqu'un beaucoup plus compétent que moi. Après là je te dis ça à l'heure d'aujourd'hui, après dans X années je sais pas qu'est-ce que je vais te dire, est-ce que bah du coup je me sentirai prêt pour gérer ça. À l'heure d'aujourd'hui non, je veux garder ma liberté, et faire ce que je sais faire, c'est-à-dire entrepreneur, c'est mettre ma passion en travail, ma hargne, tester des trucs, me tromper, voilà, que, au bout d'un moment t'as plus le droit de te tromper. Moi j'aime bien tester et me tromper, quitte à prendre des gros risques, tu vois.
C'est drôle parce que ce que tu définis comme être entrepreneur, pour moi c'est aussi, dans ma définition et dans ma vision des choses, c'est aussi être chef d'entreprise, cette passion, ce travail acharné, la prise de risque, le fait de se tromper. Je pense qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui ne se trompe pas.
Ouais, c'est vrai, ça en fait partie. Mais il reste toujours quand même cette notion de t'es pas libre en fait. Tu rends des comptes, tu peux pas partir de ta boîte comme ça. Et t'as des compétences qu'il faut avoir, tu vois, qu'un entrepreneur n'a pas forcément. Je sais pas.
J'ai beaucoup d'attache aussi à la liberté. À la liberté d'agir, à la liberté d'entreprendre.
C'est important, hein, c'est pour ça qu'on fait ces métiers.
Et je suis convaincue que ce n'est pas incompatible, mais c'est très intéressant d'en apprendre plus sur ta vision des choses. Et donc du coup, en admettant que du coup, tu récupères cette liberté, tu laisses le bébé à quelqu'un d'autre et tu continues à entreprendre, mais plutôt sur des projets associatifs.
Ouais, moi c'est le but.
Il y a une question qui me vient à l'idée parce que une des vocations du podcast Insensé, c'est pas la seule, mais en tout cas, un des trucs que j'aimerais creuser, c'est que pour moi, le business peut et doit faire sens aujourd'hui. Il doit avoir un impact positif sur des gens, sur l'environnement, sur des projets. Enfin, en tout cas, Je cherche un petit peu à démystifier cette partie-là et mettre en lumière ceux qui arrivent à le faire. Tu penses que c'est incompatible d'aider, de donner et de faire du business ?
Non. Enfin, je ne crois pas que ça soit si incompatible que ça.
Là, par exemple, si on parle des projets associatifs ou des sujets que tu aimerais couvrir, ce seraient lesquels ?
Moi, par exemple, il y a un projet associatif là, que j'essaye de mettre en place pour LineStude. C'est faire un programme de réinsertion économique et sociale pour les sans-abri. En fait, je veux me servir de LineStude pour réintégrer socialement et économiquement des sans-abri. Parce que moi, ça m'a aidé. Et je vois que ça marche, ça fait de l'argent et c'est simple. Il ne faut pas forcément avoir fait de l'école pour aller faire une file d'attente. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est sur un an faire ce programme-là. Donc ça serait prendre une dizaine de sans-abri, les intégrer soit dans la boîte en interne, parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des pépites en fait qui sont dehors, qui ont fait des écoles, qui sont à la rue. Et donc ceux-là, ils peuvent très bien tenir un poste de directeur commercial ou communication. Et une autre partie. Les intégrer dans l'équipe des dudes. Donc les dudes et les dudettes, c'est les personnes qui font la file d'attente à ta place. Et donc ça serait leur donner cette opportunité professionnelle pendant un an, et en même temps donc leur donner de quoi avoir un toit, de quoi avoir des vêtements propres et un téléphone. Tout ce qu'il faut pour démarrer une activité professionnelle. Pendant cette année-là, donc le but, donc c'est les faire travailler avec nous pour qu'ils mettent le plus d'argent de côté, les réintégrer socialement, via des activités, puis déjà via premièrement le travail, et leur faire passer des formations diplômantes sur vraiment ce qu'ils kifferaient faire en fait dans leur vie, ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont essayé de faire, pour qu'à la fin de ces un an, ils puissent ressortir de ce programme de réinsertion de LineStude avec de l'argent de côté. Des amis et un diplôme, en fait une formation diplômante qui déboucherait sur un CDI pour qu'ensuite ils puissent vraiment rattaquer stable dans la vie avec de l'argent de côté, des dettes qui ont été payées, des addictions qui ont été soignées et après leur faire toujours un petit suivi après c'est un an là pour s'assurer que la réinsertion se passe bien, mais ça serait vraiment faire un truc avec à petite échelle en fait de personnes, mais sur vraiment un temps long, parce qu'il y a beaucoup de réinsertions qui se font sur un laps de temps réduit, parce qu'il faut en masse, tu vois, et quelques temps après, trois mois après, ils retombent à la rue parce qu'il y a une dette qui n'a pas été payée, une addiction qui n'a pas été soignée, la réinsertion a mal été faite. Donc nous, on veut prendre moins de gens et faire sur du plus long terme. Et au moins, peut-être qu'on arrivera à sortir quelques personnes qui se comptent sur le doigt de la main de la rue. Mais au moins, on en aura sorti. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Je me sers de LineStude pour ça. C'est vrai qu'au début, j'ai pas fait LineStude pour ça. C'était surtout pour moi, pour m'aider à m'en sortir. Et quand j'ai vu que j'arrivais à m'en sortir, j'ai tout de suite vu ce que je pouvais faire avec. Et ça, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Et donc il faut absolument qu'on arrive à le mettre en place parce qu'on peut en fait. En soi, c'est très très simple. C'est tout con en fait ce qu'on demande à faire. Donc, on le fera et on va y arriver.
Et si certains auditeurs qui nous écoutent ont envie de contribuer ou d'aider à ce projet-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Nous soutenir, nous envoyer de la force. Peut-être que, je sais pas, s'il y a des avocats qui nous écoutent ou des personnes qui s'y connaissent pour les sans-abri. Comment nous, on peut faire pour mettre ça en place carré, faire ça en ordre. Après, peut-être s'il y en a qui veut nous aider, rejoindre ce projet associatif, nous donner des idées et qu'on mette les choses en place. Pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place, il y a juste une idée. Moi, avant de mettre ça en place, il faut que je fasse marcher LineStude. Ça commence, mais je suis encore au tout début. Donc il faut que je fasse marcher la boutique avant de pouvoir espérer faire ça. Donc, si vous avez des idées, des gens qui s'y connaissent, des gens qui veulent donner de la force, nous on a besoin de ça.
Ok, on mettra ton contact en lien.
C'est cool, c'est gentil.
Pour boucler un petit peu la boucle, ce que je vois dans pas mal d'initiatives que tu as prises, c'est que tu es un entrepreneur de ta vie avant d'être un entrepreneur d'une boîte, d'une start-up ou de peu importe comment on l'appelle.
Exact.
Entreprendre sa vie, pour toi, c'est quoi?
Entreprendre sa vie, pour moi, c'est quoi? Bah, c'est faire ce qu'on a envie de faire. C'est pas faire ce qu'on nous a dit de faire, c'est faire ce que toi, tu as envie de faire. Et tout faire pour y arriver. Et je pense que du moment que tu fais ça, bah, t'entreprends bien ta vie.
Il y a une question insensée qui vient de me passer par la tête. quelle serait l'activité la plus insensée que tu feras une fois que tu es à la retraite?
L'activité la plus insensée?
Ouais.
Ouais, j'en ai un peu plusieurs, mais ouais, je pense que j'irai faire une bonne course de karting.
Ok. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui?
Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que déjà, je kiffe ce que je fais. Et surtout parce que je sais que je peux aider des gens, en fait, et que je fais pas juste un truc égoïste pour moi. Certes, comme je t'ai dit de base, c'était pour moi, mais je vois que voilà que je peux aider les autres en fait, et voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais servir en fait à la société, aux gens, et je vois que je peux. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça en fait. C'est pour moi, pour la société, pour les gens. C'est, je sais pas si c'est la meilleure chose, mais moi je pense que voilà. Que je peux faire pas mal de choses pour tout le monde. Bah après, est-ce que c'est forcément le service que la Terre a besoin dans son monde? Bah ça, je peux te dire, bah non, bien sûr, je pense pas. C'est sûr que c'est pas ça qui va arrêter le réchauffement climatique, qui va éveiller les gens sur le monde qui nous entoure. Non, ouais, c'est sûr, c'est une idée carrément comme certains diraient dans l'ultra néolibéralisme. Mais je m'en fous en fait, parce que je me sers de ça pour justement essayer de faire des choses bien après. Et déjà, ça peut aider des gens. Donc si déjà, moi, à ma petite échelle, avec mon peu de compétences que j'ai, je peux faire ça, bah, j'aurais fait des bonnes choses. Donc ouais, c'est pour ça que je fais ça.
Est-ce que ça fait sens pour toi?
Bah moi, bien sûr que ça fait sens. Ça fait sens déjà parce que c'est toujours ce que j'ai voulu, faire des choses par moi-même, et aussi parce que je vois que je peux aider des gens et puis que j'en aide déjà en fait avec mes Jude. Voilà, bah, y en a plein qui sont RSA, que j'arrive à leur faire un plus financier qui les aide beaucoup. J'ai ce programme de sans-abri qui est dans ma tête, qui va sortir, et quand il sera là, va vraiment aider des gens. Donc bien sûr ça fait sens pour moi, voilà, du moment que tu fais un truc sur Terre et qui aide les gens, bah, ça fait sens. Donc ouais, pour moi ça fait sens, de ouf. En plus, comparé à mon passé, je trouve que non, ça fait sens de ouf.
Est-ce que tu peux me dire ce qui est sacré à tes yeux?
Qui est sacré à mes yeux? C'est le respect et la famille. Respect, valeur, principe, à la famille. Il n'y a rien de plus.
Et si on rentre dans les valeurs les plus importantes pour toi, c'est quoi?
Les valeurs les plus importantes, bah, c'est les piliers, le respect et la famille. C'est les valeurs les plus importantes.
Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de mieux te connecter à toi?
Quelque chose qui me permet à mieux me connecter à moi.
Ouais. C'est n'importe quoi, t'as une semaine de merde, t'as la tête dans le guidon, t'as des choses qui partent dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais pour te reconnecter?
Je me rappelle d'où je viens. Et ça me reconnecte assez vite quand j'ai un coup de mou. Je me dis là, mais attends, ouais, rappelle-toi il y a quelques années où t'étais, ce que tu faisais. Est-ce que là, à l'heure d'aujourd'hui, t'as le droit de te plaindre ou tu vois? Non, ça me remet très très vite à la réalité. Je galère pas, je vis les plus belles années de ma vie en ce moment. Donc certes, des fois, il y a des jours de galère, tu sais pas quoi faire, tu te dis que peut-être tout va partir en couille, mais je vis la meilleure vie de ma vie pour l'instant. Donc ouais, non, le plus important, c'est pas d'oublier d'où tu viens, qui tu es, parce que dans des moments durs, c'est de t'en rappeler en fait qui va t'aider à aller mieux.
Est-ce qu'il y a un conseil que t'aimerais donner à Brian Addo?
Bah ouais, ouvre les yeux, ma gueule. Arrête de dépenser de l'argent là dans des bouteilles de champagne en boîte de nuit, à la part Dieu. Ouais, je garde ton argent, mets-le de côté, investis-le dans des trucs qui vont être rentables plus tard. Ouvre les yeux, arrête de faire le con et avance quoi. Mets-toi un gros coup de pied au cul, arrête de faire de la merde et réfléchis avec ta tête.
Est-ce qu'il y a une phrase inspirante qui t'aide à te lever le matin?
Une phrase inspirante, non, mais tous les jours, je me demande si j'en fais assez, tu vois. Tous les jours, j'essaie de mettre un bon coup de pied au cul en me disant, ben, j'ai pas fait assez, faut que je fasse plus. Comme ça, voilà, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses dans ma vie. Donc, et puis je pense, après, je pense aussi beaucoup à toutes les personnes qui n'ont pas la chance que j'ai aujourd'hui. Donc, non, c'est pas forcément des phrases qui me motivent, mais c'est. Si tu te motives, en fait, tu devrais juste mettre les infos pour se dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête de me plaindre, je me lève et je me bouge. Quand tu vois qu'il y a assez de misère que ça dans le monde, on devrait tous être assez bien motivés pour se lever le matin et faire les choses, même si, bah, certes, pour notre quotidien, c'est peut-être dur, mais on est bien. Franchement, on est bien.
Est-ce que tu as un mentor?
Un mentor? Non, j'ai pas de mentor. Des personnes qui m'ont énormément inspiré, ouais.
Ouais, qui ça?
J'ai deux personnes notamment bah, qui m'ont donné en fait cette envie de devenir entrepreneur. Première personne, c'est mon oncle. Mon oncle, donc lui, Rodolphe, qui pour moi est un grand chef d'entreprise. Entrepreneur et chef d'entreprise.
Ah, il a les deux casquettes, lui.
Ouais, lui, il a les deux casquettes.
Et qu'est-ce qu'il fait, Rodolphe?
Bah lui, il a plusieurs boîtes. Il n'en a pas qu'une. Voilà, il a plusieurs boîtes. Il s'amuse, tu vois. Il s'amuse. Donc c'est cool. Puis il réussit à peu près tout ce qu'il fait. Voilà, grand respect à lui. Moi, j'ai toujours vu réussir à être content. Avec les belles voitures, les belles maisons. Certes, bon, ça fait pas le bonheur, mais il a toujours réussi, puis c'est ce qu'il a voulu dans sa vie. Et ça m'a beaucoup inspiré, en fait. Surtout qu'il vient de rien. Tu vois, il vient vraiment de rien du tout. Donc ça fait plaisir, en fait, d'avoir quelqu'un comme ça dans la famille, qui a réussi en venant de nulle part et avec rien du tout en bagage. Et l'autre personne qui m'a beaucoup inspiré et que je trouve ouf, c'est Christian Audigier. Je sais pas si tu connais.
Non, c'est qui?
Christian Audigier, c'est celui qui a créé la marque Von Dutch et d'autres marques. Il a créé, je crois, trois ou quatre marques de prêt-à-porter. C'est un Français qui a fait de la prison pour stup. Et un jour, il s'est tapé un coup de tafu, il s'est barré à Los Angeles avec, je crois, 500 $ en poche. Il était à la rue. Et il s'est dit, bah, je vais devenir multimilliardaire dans le monde de la mode. Et il est devenu multimilliardaire dans le monde de la mode.
Génial.
Puis il est incroyable ce type. Je l'avais vu quand j'étais petit, un reportage sur M6, je crois, Zone Interdite ou Capital, dans les émissions comme ça. Et j'ai été bouche bée en fait de voir un gars qui sort de rien, qui a fait de la prison pour stup, qui s'est tapé un coup de tafu et qui est devenu multimilliardaire. Bah, à partir de ce moment-là, je me suis dit, n'importe qui, du moment qu'il a la volonté, il peut avoir ce qu'il veut. Et ça m'a donné ça m'a donné la foi, tu vois, une rage, la foi. Et là, j'ai commencé à croire, à me dire, bah, je peux devenir qui je veux, en fait. Arrête d'écouter tes professeurs, tes autres là qui disent, bah, toi, contrairement avec tes notes, bah, tu vas devenir ça, ça, ça. Vas-y,
Ouais.
je les écoute pas. En fait, non, je peux devenir ce que je veux.
Tout est possible.
Bah, bien sûr.
Une petite question par rapport à ton oncle, parce que c'est le genre de parenthèse où je me demande toujours, à l'époque où tu étais à la rue, est-ce que c'est quelqu'un que tu considérais appelé?
Est-ce que c'est quelqu'un que je considérais appeler?
Ouais, que tu pouvais appeler.
Qui?
Ton oncle.
Ah non, j'appelais personne.
Non.
Personne le savait. Non, non, non.
Ah, tu voulais que personne le sache non plus dans ton entourage.
Bien sûr. Personne, personne. C'est, j'étais entre moi et moi-même. Tu vois. C'est moi et moi-même. C'est, ça regarde personne d'autre. J'ai pas besoin qu'on me prenne pour miskine, qu'on, tu vois, qu'on me prenne en pitié. Pas besoin de ça.
Et parce qu'ils auraient pu t'aider?
Certainement, je pense. Tu vois, je, bien sûr, je pense, carrément.
Tu referais pareil?
Bien sûr, je referais pareil. C'est, je me suis toujours démerdé par moi-même. Hein. C'est, j'ai jamais vraiment aimé demander. Donc ouais, non, je referais pareil. C'est un coup, on m'aurait aidé, on m'aurait tendu la main parce que j'aurais demandé de l'aide à ma famille, ça serait pas passé pareil. Après, on m'a aidé, tu vois. Il y a des gens que je considère comme ma famille qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, et ça a changé ma vie, et ça m'a aidé aussi en être là à l'heure d'aujourd'hui. Donc ouais, bien sûr, j'avais besoin d'aide, et c'est parce qu'on m'a aidé que j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est sûr, je me voyais pas... Ouais, allô, je suis à la rue, tu peux m'aider, machin, nanana, faire la miskine, c'est non. C'est d'abord, je fais le point avec moi-même, j'essaie de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Et ensuite, voilà, on m'en propose.
Ok. Un conseil que tu aurais pour quelqu'un qui cherche à aligner ce qu'il fait et ce qu'il est, à mettre plus de sens dans sa vie, ou peut-être à entreprendre sa vie?
Bah, le conseil, il faut juste qu'il s'y reconnaisse à l'intérieur, en fait. S'il fait un truc et qu'il ne se sent pas premièrement concerné, avant tout, avant de le faire aux autres, il faut que tu le fasses pour toi-même. Et si, voilà, si ça fait sens pour toi, ça fera sens aux autres, mais ouais, je pense qu'il faut se reconnaître dedans. Donc, le seul conseil, c'est pose-toi les bonnes questions, en fait. Pourquoi tu fais ça? À toi, qu'est-ce que ça va t'apporter? Aux autres, qu'est-ce que ça va apporter? Mais après, je pense que du moment que tu as ces réponses-là, ça fera sens.
À présent, peux-tu nous partager deux vérités et un mensonge te concernant? Ne nous dis pas lequel est lequel.
J'ai failli mourir dans une grosse tempête tropicale à Malte. J'ai fait de la prison et j'ai travaillé au Bénin, en Afrique.
J'en mets. À présent, j'aimerais te présenter de manière complètement fictive. J'ai normalement une petite poupée en bois qui s'appelle Ashanti. Donc il faut que tu imagines une poupée en bois avec une grosse tête jaune.
Okay.
Elle vient du Ghana. Au Ghana, elle est symbole de fertilité, Ashanti. Et les femmes la portent sur leur dos jusqu'à ce qu'elles aient un enfant. Moi, je me la suis un peu appropriée sur le podcast et c'est devenu la baguette magique du podcast.
D'accord.
Donc, cette baguette magique, tu vas pouvoir faire un vœu pour que le monde fasse un peu plus de sens et qu'on marche un peu moins sur la tête.
Okay.
Je vais te la prêter virtuellement. Donc tu peux la recevoir naturellement. Quel vœu est-ce que tu veux nous partager?
Donc si je dois faire un vœu à Ashanti pour que le monde y tourne correctement?
Ouais.
Bah ça serait un peu que les gens se réveillent, que prennent un peu conscience du monde qui nous entoure, que ça élève un peu leur conscience. Et je pense que du moment que les gens prennent un peu conscience du monde qui nous entoure, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va plus accepter, d'autres qu'on acceptera, et que ça remettra un petit peu d'ordre dans ce monde.
Ok, bien reçu. Je te reprends à Chantilly, virtuellement.
Top, merci.
Avant la fin, je voudrais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour toi, pour Lines Dude, pour la suite?
Bah que tout continue comme ça se passe, ça marche bien. Que ça continue.
Continue à apprendre, très bien.
Ouais, que ça continue.
Et as-tu quelqu'un à me recommander qui a aligné ce qu'il fait et ce en quoi il croit, qui a aligné un peu le sens, ses valeurs avec ce qu'il fait au quotidien? Il ou elle d'ailleurs.
Ouais, carrément. Moi je pense toujours, je sais pas si tu les connais, les fondateurs de Meet My Mama.
Meet My Mama?
Ouais, Meet My Mama.
Ok, qu'est-ce qu'ils font?
Ouais. Alors ils font, c'est un... Par exemple, tu es une entreprise, puis ouais, tu veux faire un dîner d'entreprise, puis tu veux manger indien. Bah, eux, ils vont t'amener la vraie mama d'Inde qui va faire les spécialités d'Inde pour toi. Donc en fait, ils incluent toutes les mamas qui ont des gros talents culinaires, qui viennent des quatre coins du monde. Ils les forment à la cuisine, ils leur permettent de vivre de leur passion, en fait, au sein de leur société. Donc elles font à manger pour les entreprises, pour des particuliers. Et c'est ouf, il y a un engouement de dingue autour de ça. Et ils mettent vraiment en avant les mamas, parce qu'elles sont fabuleuses, quoi. Elles ont un talent de ouf, et elles ne sont pas assez mises en lumière. Et il y en a de partout dans les quartiers, et eux, bah, ils vont les chercher, et ils les mettent en lumière pour vraiment ce qu'elles sont et ce qu'elles savent faire. Et c'est formidable, je trouve ça formidable.
Trop bien, et on adore, c'est autour de la bouffe en plus, ça éveille les papilles.
Ouais, de ouf, grave.
Trop bien. Bon, bah merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Et à très vite.
Allez, ça marche. À plus. Merci.
Un grand merci à Brian pour son partage. À vous de jouer maintenant. Pour ceux et celles qui souhaitent contribuer à aider les SDF qui, eux, n'ont pas de toit en cette période de confinement, j'ai partagé le lien du fonds d'urgence qui a été créé par All Fighters. Donc c'est le premier lien dans les liens utiles et censés en description de l'épisode. Brian nous a aussi partagé le lien d'un groupe Facebook de Maraude et le contact de Julie qui cherche des bénévoles en période de confinement pour le 17 boulevard Kellerman pour ceux et celles qui habitent dans le 13e arrondissement de Paris. À très vite.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez.
What's your purpose? What's your cause? What's your belief?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh!
Réfléchissez.
Dégueulé.
La vie a-t-elle un sens?
Qui suis-je?
Mais il est complètement fou, ce mec!